Chers amis des cellules, bonjour. Nous reprenons notre lecture de À Philémon, réflexion sur la liberté chrétienne du père Adrien Candiar. Nous terminerons aujourd'hui le chapitre 2. Nous avions vu la dernière fois cette distinction entre interdit et impossible. Dieu nous manifestait par sa parole ce qui était impossible à l'homme, impossible pour la vie de l'homme, contraire à la vie de l'homme. Et le serpent voulait faire croire que cet impossible était seulement un interdit, c'est-à-dire seulement une chose que l'on ne pouvait pas faire parce que Dieu avait dit de ne pas le faire, mais que cela n'avait rien à voir avec la vie de l'homme, et que même ce qu'il interdisait peut-être était bon pour l'homme, aurait été bon pour l'homme. Le deuxième point sur lequel nous étions arrêtés, la révolte et la soumission de l'esclave, sont deux attitudes face à la volonté de Dieu qui ne font pas la volonté de Dieu. Alors c'est à peu près évident pour la révolte, mais c'était plus subtil à saisir que faire la volonté de Dieu simplement parce qu'il est le plus fort, parce qu'il l'a dit et je ne cherche pas à comprendre, eh bien je ne fais pas la volonté de Dieu. Dieu souhaite que j'apprenne à reconnaître le bien en conscience. C'était ça le troisième point. Reconnaître le bien en conscience, avoir le souci de reconnaître le bien en conscience. C'était ce à quoi Dieu veut nous faire arriver. Le quatrième point que nous avions mis en évidence était que le mal ne se situait pas dans la transgression, mais dans l'acte lui-même. Le mal ne se situait pas dans la transgression, mais dans l'acte lui-même. Lorsque l'on pense que c'était la transgression, alors on se disait, mais je peux m'en approcher, je peux le contempler, mais tant que je n'ai pas dépassé la ligne, tout va bien. En fait, on se plaçait dans ces cas-là déjà dans une complicité parce que c'est l'acte lui-même qui nous détruit. Donc le contempler, le désirer d'une certaine manière, même si on se dit je ne dépasserai pas, c'est déjà en fait avoir mis tout notre cœur dans cet acte. Aujourd'hui, nous allons essayer de saisir ce qui peut être, pour notre volonté, le moteur afin de faire le bien. Puisque ce ne peut pas être la contrainte, quel est donc ce moteur qui permet à notre volonté de faire le bien? Je reprends la lecture. Comme Paul l'a découvert sur le chemin de Damas, la vie chrétienne ne peut être un ensemble de choses à faire pour mériter l'amitié de Dieu, mais l'accueil de cette amitié que le Christ propose. Et cette amitié, comme toute amitié vraie, ne s'impose pas à coup de commandement. Elle se choisit librement. C'est elle qui peu à peu transforme le cœur de l'homme, qui peut changer, non pas parce qu'il se sent coupable, mais parce qu'il se sait aimé. C'est le cas de toutes les conversions spectaculaires de l'Évangile. Si Zachée, le collecteur d'impôts, change du tout au tout, s'il cesse du jour au lendemain de se servir dans les taxes qu'il prélève sur ses compatriotes au nom de l'occupant romain et décide de rembourser tout ce qu'il s'est illégitimement approprié, ce n'est pas parce que Jésus est venu lui faire la morale. Il ne lui a pas dit que le vol c'était mal. Il s'est seulement invité chez lui, il l'a regardé avec amitié, et cette amitié a tout changé. Ce qui permet de changer le cœur de l'homme, ce qui permet donc de transformer sa volonté, c'est l'amitié. Une amitié vraie, une amitié avec le Christ. Donc non pas une contrainte, non pas même une sagesse que l'on entendrait, mais plus qu'une sagesse, une amitié. C'est donc une qualité de relation et de relation avec la personne du Christ qui peut changer, transformer notre volonté. Il prend cet exemple de Zachée où, de fait, à aucun moment on ne voit Jésus dire à Zachée « Arrête de voler, ce n'est pas possible que tu continues à vivre de cette façon-là. » Il s'est invité chez lui, l'a regardé avec amitié, et cette amitié a tout changé. Le nœud ici n'est donc pas de faire se sentir coupable, mais de se savoir aimé par la personne du Christ. C'est cette amour du Christ révélé, c'est cet amour du Christ perçu qui permet à l'homme de mettre sa vie en conformité avec cette amitié. C'est à ce moment-là où il saisit que l'amitié du Christ a plus de valeur, a plus de fruits, a plus d'avenir que ce qu'il convoitait précédemment. Vous voyez, quelque part, derrière, il y a cette idée que le cœur de l'homme convoite. Alors, cette convoité, c'est un terme un peu mauvais, mais vous voyez, désir. Si on... Et soit il découvre ce qui est le bien le plus désirable, l'amitié avec le Christ, soit justement il se perd en désir et en convoitise de choses qui ne sont pas Dieu, où il attache sa vie, il attache toutes ses énergies, et c'est là qu'il se perd, parce qu'il est fait pour Dieu. La clé n'est donc pas un code de bonne conduite qu'il faudrait assimiler. Voilà le code de bonne conduite, si tu sais tout cela, eh bien tu seras un homme juste. La clé est une rencontre personnelle avec Jésus, Jésus personne vivante, et une rencontre dans l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a une affection mutuelle qui est perçue et développée. Je reprends la lecture. Voilà pourquoi il n'y a pas dans la foi chrétienne de vie morale sans vie spirituelle. Parce que c'est l'amitié avec le Christ, c'est la présence de Dieu en nous, que nous appelons l'Esprit Saint, qui peut à la fois nous éclairer sur ce qui est bon, nous donner envie de l'accomplir, et nous libérer patiemment de tout ce qui nous en retient. J'arrête ici la lecture pour souligner que cette amitié avec le Christ, cette présence de Dieu en nous, est caractérisée par l'habitation de l'Esprit Saint. Cette amitié dont on parle avec le Christ est caractérisée avec l'habitation de l'Esprit Saint en nous, et qui a cette vertu, cette capacité, premièrement, d'éclairer sur ce qui est bon. Donc ça, c'est un acte qui vient éclairer notre intelligence, un acte de l'Esprit Saint qui vient éclairer notre intelligence sur ce qui est bon, un acte du discernement. Nous donner envie de l'accomplir, ça c'est un acte qui vient travailler sur notre volonté, le désir de l'accomplir, la volonté qui aime accomplir ce que l'intelligence lui a présenté comme bon. Et troisièmement, nous libérer patiemment de ce qui nous en retient, c'est-à-dire nous donner la capacité de mettre en pratique ce que nous avons discerné de bon, ce que nous avons aimer, désirer, vivre, nous recevons aussi une capacité à dépasser tout ce qui nous retiendrait. Voilà l'action de l'Esprit Saint en nous, au niveau du discernement, au niveau de la volonté qui aime, qui désire et qui choisit, et au niveau de la mise en pratique. Voilà, je voulais souligner cela. Je reprends la lecture. C'est la fréquentation de Dieu, la familiarité avec Dieu, qui seule nous libère du péché, péché qui nous empêche de faire ce que nous voulons, péché qui détruit notre liberté. La prière, la messe, les sacrements ne sont pas des conditions préalables à cette amitié, mais des éléments qui viennent la nourrir et la faire grandir. Le travail de Paul auprès de Philémon, ce ne peut être que d'assister le travail premier et essentiel de l'Esprit-Saint. Vous voyez combien cela peut s'opposer à notre sentiment. Le père Candiard dit « c'est le péché qui nous empêche de faire ce que nous voulons, c'est le péché qui détruit notre liberté », alors que bien souvent nous avons l'impression que c'est la loi de Dieu qui nous empêche d'être libres. Et que le péché, en fait, c'est une récupération de la liberté, de ce que Dieu nous empêche, nous interdit de faire. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment ancré parfois en nous, mais qui est aussi ancré dans notre société. Vous avez tous entendu ces phrases « Libère-toi de tes chaînes judéo-chrétiennes. Retrouve cette liberté, cette spontanéité. » Le péché est ce qui nous empêche de faire ce que nous voulons, parce que nous voulons la vie véritable, nous voulons la vie en plénitude, et le péché est contraire à cette vie en plénitude. Dans sa nature, dans son acte même, le péché est contraire à cette vie. Ensuite, je remarque que le père Condillard souligne que la prière, la messe, les sacrements ne sont pas des conditions préalables à cette amitié avec Dieu. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses que Dieu nous demanderait de faire, pour acheter son amitié. Si tu fais ceci, si tu fais cela, alors je serai ton ami, alors nous pourrons avancer ensemble, alors je prêterai l'oreille à ce que tu me dis. On n'est pas dans une espèce de relation commerciale. La prière, la messe, les sacrements sont des éléments qui viennent nourrir et faire grandir cette amitié. Comme de façon très pratique, si vous voulez avoir un ami, il faut que vous parliez avec lui, il faut que vous preniez du temps avec lui. Un ami que vous n'écoutez pas, que vous ne rencontrez pas, il va peut-être devenir petit à petit une connaissance, mais ensuite ce ne sera plus qu'un souvenir et ensuite plus rien du tout. C'est par la prière, c'est par les sacrements, c'est par la messe que nous rencontrons le Seigneur, que nous pouvons l'écouter, pardon, que notre vie s'unit à la sienne. Je reprends la lecture. Paul est au service d'une conversation qui n'est pas la sienne, dont il n'est pas un interlocuteur, mais seulement le ministre, celle de Philémon et de l'Esprit-Saint. La tentation serait grande, bien sûr, de sortir de ce rôle et de chercher à se montrer plus actif, plus précis, plus pressant. Nul doute que Paul a bien des idées sur ce qu'il dirait à Philémon s'il était à la place de l'Esprit, mais précisément, il sait qu'il n'y est pas et il s'en réjouit. Remarquez ce que relève le père Candiard. Il dit « Nul doute que Paul a bien des idées sur ce qu'il dirait à Philémon. » Paul aurait bien des idées pour dire à Philémon ce qu'il doit faire, ce qu'il aimerait le voir faire. Mais Paul est au service de l'action de l'Esprit-Saint en Philémon. Et donc, il ne cherche pas à se substituer à l'Esprit-Saint, mais à aider Philémon à entendre l'Esprit-Saint en lui, à entendre l'Esprit-Saint rendre claire la parole, l'exhortation, l'invitation, l'amitié de Jésus. Pourquoi est-ce important? Parce que ce qui est en jeu n'est alors pas notre orgueil et notre autorité. Tu ne m'écoutes pas et donc j'en fais une affaire personnelle. C'est une opposition, c'est une lutte des volontés. Ce qui est en jeu, ce n'est pas ma volonté contre la tienne. Ce qui est en jeu, c'est ta vie, ton amitié avec le Christ. Et je suis au service de cette amitié. Je ne me substitue ni à Dieu ni à toi dans cette rencontre. Souvenons-nous quand même que Paul s'adresse à Philémon qui est un adulte, avec un enfant qui n'a pas encore pleinement l'usage de sa raison et dont la volonté n'est pas encore vraiment formée. On ne pourrait pas vraiment agir de la sorte, parce que l'enfant n'est pas encore en mesure de discerner tout seul. Et donc il a besoin que ses parents lui indiquent ce qu'il doit faire. Il a besoin que ses parents lui disent, bah, tu vois, s'il ne veut pas aller à l'école, par exemple, pour apprendre, on va lui dire, bah, tu vas y aller quand même. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas apprendre. Les parents vont devoir exercer une certaine contrainte pour que l'enfant fasse une expérience, le temps de développer son intelligence et son discernement. Cette contrainte ne se comprend pas comme un rapport de force des volontés, mais comme une mission d'éducation pour former justement l'intelligence et la volonté de celui dont on a la charge. Cette contrainte éducative est notamment liée au fait que l'enfant n'a pas le recul pour prendre conscience des conséquences de ses actes. Et l'adulte doit le protéger de ses conséquences néfastes en intervenant. Je reprends la lecture. Ce qui est en jeu ici, ce n'est rien de moins que le salut de Philémon, car le salut ne concerne pas seulement son devenir post-mortem, son destin après cette vie-ci. On envisage d'ailleurs trop souvent ce dernier comme s'il s'agissait d'un passage en classe supérieure, autorisé ou refusé par un conseil de classe plus ou moins accommodant, selon des critères un peu invraisemblables, incohérents et arbitraires. On se demande si l'on a tout bien fait, si l'on a assez travaillé, et surtout si le conseil sera clément. En un mot, si ça passe. On se demande alors quel est le niveau d'exigence du bon Dieu pour nous admettre au paradis. S'agit-il, comme des cancres de la vie éternelle, de ne faire que le minimum vital? C'est que la vie éternelle, c'est tout autre chose. commencée dès notre vie, elle n'est pas autre chose que cette familiarité avec Dieu, cette vie sous la conduite de l'Esprit qui, peu à peu, nous transforme en fils et filles de Dieu. Le salut n'est pas la récompense de notre amitié avec le Christ. Le salut, c'est cette amitié même qui nous unit à Dieu pour l'éternité. Dès lors, la question n'est plus de savoir si nous avons accompli ceci ou cela, ou si Dieu voudra bien nous pardonner ce petit écart, mais de nous donner entièrement dans cette amitié que Dieu nous offre. Se lancer dans cette arithmétique qu'on ait de Dieu l'image d'un juge inflexible et terrible ou d'un papy gentiment laxiste, c'est dans les deux cas n'avoir pas compris la nature même du salut. Les contes d'apothicaires n'ont pas grand-chose à voir avec le grand amour. Quand les premiers se demandent ce qu'il faut donner au plus juste, le second ne demande qu'une chose, tout. C'est très important ce qui est dit là. Le salut n'est pas un passage dans la classe supérieure où j'essaie d'avoir la moyenne et je me dis « bon, là j'ai suffisamment de points d'avance, donc maintenant je peux me laisser aller, tout va bien, de toute façon je passe ». Le salut, c'est une disposition de cœur dans l'amitié avec Dieu. Et soit je suis tourné vers Dieu dans ma vie, peut-être avec encore des imperfections, mais je suis radicalement tourné vers Dieu. Et dans ce cas, je suis disposé au salut, je serai ouvert au salut. Mais cela signifie que j'ai vraiment les yeux tournés vers Dieu. Le salut n'est pas « j'ai eu les yeux tournés vers Dieu suffisamment longtemps, maintenant je peux les détourner » et les points que j'ai d'avance me suffisent à entrer dans le paradis. Je termine le texte. Cette morale qui se fonde dans la vie spirituelle, cette morale qui s'enracine dans l'amitié avec le Christ, n'est pas moins exigeante que celle qui ne demande que notre obéissance à des règles. Elle est même bien davantage, parce qu'elle n'attend pas de nous seulement tel geste, le sacrifice de tel plaisir ou de telle demi-heure, elle ne demande pas moins que notre être tout entier. Car nous ne pouvons entrer dans cette amitié sans y entrer avec toute notre personne. Une personne encore imparfaite, sans doute, mais Dieu saura bien nous conduire pour peu que nous soyons vraiment là, décidés à le suivre. C'est peut-être parce que nous sentons ce que cette morale a d'exigeant et même d'exorbitant que nous nous dérobons si souvent, préférant l'autre, celle de l'obéissance au commandement, finalement tellement plus facile. Voilà pourquoi la Bible nous présente Dieu si souvent insatisfait de ce peuple qu'il appelle à lui. « Ils me présentent leur dos, se plaint-il, quand je voudrais voir leur face. Ils préfèrent être des esclaves à qui on ordonne et qu'on châtie, plutôt que des amis que l'on regarde dans les yeux. Nous croyons chercher la face de Dieu, mais c'est lui qui cherche la nôtre, inlassablement, parce qu'il sait que ce face-à-face pour lequel il nous a créés, c'est le seul horizon qui soit à la mesure de notre cœur en quête d'infini. » Fin du chapitre 2. Retenons peut-être aujourd'hui deux choses. Ce qui transforme le cœur, c'est l'amitié avec le Christ. Une amitié, une familiarité avec la personne de Jésus qui s'accompagne de l'habitation de l'Esprit-Saint dans notre cœur. Le deuxième point, c'est que le salut n'a pas la logique du passage dans la classe supérieure, où il faudrait avoir réuni un certain nombre de points, et notre cœur pourrait alternativement être tourné vers Dieu et se détourner de lui, du moment que le bilan est globalement positif. Le salut, c'est un cœur tourné vers Dieu. Le salut, c'est une histoire de vie, d'amour, d'alliance avec Dieu. Le salut, en fait, c'est un appel à un don total. C'est l'exigence d'un vrai face-à-face avec le Seigneur. Eh bien, puissions-nous vivre pleinement ce face-à-face dans un cœur qui désire toujours être tourné vers Dieu. Je vous souhaite de bons échanges. À bientôt.